DW. Le journal. Nafisa Amadou.
17h en temps universel, 18h ici à Bonn en Allemagne. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Au sommaire, le Mali et moi et des questions après la mort de 49 soldats dans une attaque revendiquée par le groupe État islamique. Cette attaque la plus meurtrière depuis des années pour l'armée malienne montre les limites de l'action militaire contre les djihadistes. Les explications dans ce journal. Des centaines de Guinéens ont défilé aujourd'hui dans la capitale Conakry pour accompagner aussi les cercueils des victimes des manifestations de mi-octobre. Des heurts ont éclaté entre forces de l'ordre et manifestants. À Lubumbashi, dans le sud-est de la RDC, la pluie se fait rare. Les cultivateurs craignent déjà la sécheresse. Et puis ce lundi, nous lançons notre série sur les 30 ans de la chute du mur de Berlin. C'était le 9 novembre 1989. Mais avant de développer tous ces titres, le bulletin d'information présenté ce soir par Hugo Flota Talon. Bonsoir Hugo.
Bonsoir Nafisa, bonsoir à toutes et à tous. L'Iran accélère encore sa production d'uranium et vient même de lancer la mise en route de 30 nouvelles centrifugeuses. Annonce du président de la République islamique aujourd'hui. L'Iran produit désormais 5 kilos d'uranium enrichi par jour, 10 fois plus qu'au début du mois de septembre. Une production qui augmente constamment depuis le retrait des États-Unis l'an dernier du pacte sur le nucléaire iranien. À l'ouest de l'Iran, en Irak, les forces de sécurité ont tiré à balles réelles sur les manifestants aujourd'hui à Bagdad. Des manifestants qui marchaient en direction du siège de la télévision. Il y aurait une dizaine de blessés. Le pays est toujours très perturbé face à la contestation sociale sur place. Les manifestants réclament depuis début octobre la chute du régime en place. On va y revenir dans la suite de ce journal. Dans la région, encore au Pakistan, la chef de l'opposition, Mariam Nawaz Sharif, a été libérée. Elle avait été arrêtée début août, officiellement pour des soupçons de corruption. Elle avait auparavant organisé des manifestations contre le Premier ministre Imran Khan. Elle voulait protester contre ce qu'elle considérait comme des élections manipulées, dont ce Premier ministre Imran Khan était sorti vainqueur en 2018.
En Allemagne, les forces de sécurité surveillent ceux qui menacent de mort les élus.
Oui, c'est en tout cas ce qu'affirme le ministère fédéral de l'Intérieur ce lundi. Déclaration après les menaces de mort adressées notamment tout récemment à des élus écologistes. Un groupe dénommé Division des armes nucléaires a averti deux élus qu'ils étaient sur une liste de personnes à exécuter. D'autres élus ont aussi été menacés ces dernières semaines en Allemagne. L'accord de libre-échange entre les États de l'ASEAN en Asie-Pacifique reporté à l'an prochain. 15 pays se sont engagés à le signer aujourd'hui en Thaïlande, mais en 2020 seulement donc. L'Inde s'est-elle complètement retirée de ce gigantesque accord de libre-échange promu par Pékin, inquiète de voir débarquer sur son sol certains produits manufacturés ou agricoles chinois. Aux États-Unis, nouvel épisode du feuilleton concernant la procédure de destitution de Donald Trump ce lundi, pour le moins surprenant. Deux avocats de la Maison-Blanche, appelés à témoigner devant le Congrès aujourd'hui, ont ignoré la convocation. Ils n'ont pas été au Congrès. Deux autres doivent s'y présenter dans quelques heures. Ce sera alors l'après-midi aux États-Unis, mais devraient visiblement eux aussi refuser de se présenter.
En Grèce, 41 migrants découverts dans un camion frigorifique aujourd'hui.
Oui, 41 personnes, toutes en vie, pour beaucoup de nationalités afghanes. C'est la police qui les a découverts lors d'un contrôle. Le conducteur du camion soupçonné d'être le passeur a lui été arrêté. Pour la première fois depuis 2016, la Grèce est redevenue cette année la principale porte d'entrée des demandeurs d'asile en Europe. Europe encore avec un gouvernement pour la Roumanie. Il a obtenu la confiance du Parlement aujourd'hui, gouvernement minoritaire du libéral Ludovic Orban. Une bonne nouvelle pour le pays qui était un peu en crise politique avec des difficultés pour former un gouvernement. Et cela va permettre aussi de mettre en place la Commission européenne de l'Union européenne. Il manque en effet un candidat roumain pour un poste de commissaire européen qui doit être nommé par le gouvernement roumain, justement. Et puis, des yeux qui brûlent, des passants qui toussent, des écoles fermées à cause de la pollution, des chantiers stoppés, la circulation alternée mise en place. La scène se passe en Inde, à New Delhi. Les 20 millions d'habitants de la capitale indienne subissent depuis plusieurs jours l'un des pires épisodes de pollution atmosphérique depuis plusieurs années. Ce matin, on enregistre une concentration de particules fines de 469 microgrammes par mètre de cube d'air. C'est près de 19 fois plus que le maximum recommandé par l'Organisation mondiale de la santé.
Il est 17h05 en temps universel. C'était le bulletin d'information avec Hugo Flotta-Talon.
DW.
Au Mali, l'attaque du camp militaire d'Indelimane dans le nord du pays, revendiquée par l'État islamique et qui a causé la mort de 49 soldats maliens, souligne les limites de l'action militaire dans la lutte contre les djihadistes. Seule l'aide aux populations dans des régions abandonnées par l'État malien pourrait contrer l'implantation des groupes djihadistes. Éric Topona.
Depuis 2012, les attaques djihadistes se multiplient dans le nord du Mali en dépit de la présence de l'armée malienne, de la force française de l'opération Barkhane et des soldats de la MINUSMA, la force de l'ONU déployée dans le pays. Selon Boubacar Salif Traoré, spécialiste des questions de sécurité et de développement, les seules actions militaires ne suffisent pas pour chasser les djihadistes de ces régions.
Nous sommes dans un processus de reconstruction post-conflit. Les différents projets de développement doivent prendre le dessus. Quand on prend effectivement la force conjointe G5, le volet développement représenterait 69% de l'ensemble de l'initiative. Dans les débats, on voit qu'effectivement c'est l'aspect militaire qui prend le dessus et je pense qu'il faut très rapidement mettre en œuvre justement ces questions de développement parce que effectivement le vide laissé par l'État est rapidement occupé par les groupes armés qui en profitent pour construire des relations de confiance et ce sont sur la base de ces relations de confiance qu'ils parviennent à avoir des renseignements utiles.
Les fonds nécessaires au financement du volet développement du G5 Sahel s'élèvent à 14,8 milliards de dollars selon son secrétariat permanent. Les projets de développement concernent les infrastructures, l'éducation, l'adduction d'eau potable ou le soutien aux communautés locales. Début décembre 2018, à Nouakchott, les partenaires internationaux ont promis 2,4 milliards d'euros pour aider ces régions. Mais pour l'instant, cet argent n'arrive pas sur place. Autre faille exploitée par les djihadistes, la complicité dont ils bénéficient au sein des populations. Une coopération souvent forcée pour éviter les représailles. Moustapha Touré, porte-parole de la plateforme Ensemble pour Gao dans le nord-est du Mali.
Avec l'absence de l'État, il n'y a pas une protection de l'armée. Toutes les populations aujourd'hui sont ciblées. Les djihadistes se pointent dans les villages, menaçant des petites populations en leur disant que tant qu'ils annoncent qu'ils sont sur le terrain, ils auront des représailles. C'est ce qui a pousser les populations aussi à rester sans parler parce qu'ils savent qu'ils n'ont aucune protection.
Les populations du nord du Mali se sentent en effet abandonnées par le pouvoir central de Bamako. Elles vivent dans la pauvreté et n'ont souvent pas accès aux infrastructures sociales de base. Et les djihadistes exploitent cette frustration.
Et puis je rappelle que le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a décrété un deuil national de 3 jours à partir de ce lundi, après donc l'attaque revendiquée par le groupe État islamique et qui a fait 49 morts dans les rangs de l'armée malienne. En Guinée à présent, des manifestants ont été blessés par balles ce lundi à Conakry lors de heurts qui ont éclaté avec les forces de l'ordre. Mireille Drone, bonsoir.
Bonsoir Nafissa, bonsoir à tous.
Alors vous avez recueilli des commentaires à ce sujet sur les réseaux sociaux.
Oui, des centaines de Guinéens ont défilé aujourd'hui dans la capitale pour accompagner au cimetière les cercueils de manifestants tués lors de récentes manifestations contre un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé. C'est lors de cette marche que des affrontements ont de nouveau eu lieu avec la police. En croire visionguinée.info, la tension est montée lorsque les pick-up des forces de l'ordre postés au rond-point de Bambeto se sont dirigés vers la mosquée. Pour disperser la foule, les policiers ont procédé à des tirs de sommation. La foule a riposté par des jets de pierre. Une dizaine de blessés ont été enregistrés dans les heurts, dont au moins 2 touchés par balle, selon Guinée.114.com, qui ont été évacués à l'hôpital. La police nous a empêchés de rejoindre le rond-point de Bambeto pour regagner la mosquée, où l'on devait prier pour les corps, écrit Khalil sur Twitter. Ils ont tiré avec des balles réelles et ont utilisé du gaz, rapporte-t-il. Selon Guinée360.com, l'opposant Sélou Dalane Diallo, accompagné de Sidya Touré et d'autres membres du FNDC, venu assister aux obsèques, parle d'assassinat volontaire. Ce qui fait mal dans tout ça, écrit Tierno sur Twitter toujours, c'est que Baouri se retire du FNDC car il dit qu'il n'est pas pour les manifestations, mais il participe à la manifestation du FNDC de Dakar. Je trouve ça incongru de sa part, conclut-il. Nabé, un autre tweeto, dénonce de son côté le comportement des politiciens guinéens. À chaque manifestation de l'opposition, ils préparent certains de leurs partisans en leur donnant des armes pour tirer sur la foule et salir le nom de l'État, affirme-t-il.
C'était Mireille Drone pour les premières réactions de nos auditeurs.
Vous écoutez la DW.
Cela fait un mois, jour pour jour, ce lundi, qu'a pris fin le dialogue national au Cameroun. Le président Paul Biya, réuni il y a un an dans des conditions controversées, semble avoir réussi sa manœuvre puisque la pression internationale semble s'être relâchée. Mais sur le terrain, les sécessionnistes n'ont pas reculé. Ils lancent toujours des offensives et poursuivent leurs opérations ville morte. Henri Fotso.
Au sortir de l'élection présidentielle 2018, le Cameroun faisait face à une double crise. D'abord, une crise sécuritaire avec le conflit meurtrier dans les deux régions anglophones. Et puis, une crise post-électorale avec le septième mandat de Paul Biya contesté dans le pays et mal vu à l'international. Cette situation n'a pas changé un an plus tard. Pourtant, on assiste en général à un changement de ton à l'international contre le régime de Yaoundé, ce qui fait dire au politologue Pierre Nka que Paul Biya a réussi un coup avec le grand dialogue national.
Le président Biya est redevenu fréquentable. Aller à Lyon, comme il est allé la dernière fois, c'est quand même quelque chose. Et quelques jours après la visite de Lyon, on a vu bien que le ministre français des Affaires étrangères est arrivé à Yaoundé. Donc, en termes d'image, le président de la République a réussi à se repositionner sur la scène internationale.
Paul Biya reçoit ainsi de plus en plus des diplomates étrangers. Il envoie ses hommes à travers le monde. Les problèmes du président camerounais demeurent néanmoins avec le MRC de Maurice Kamto d'une part et avec les sécessionnistes d'autre part qui gardent leur position sur le terrain. Le géostratège Tunda Ebode estime ainsi que de ce côté-là, les pronostics du régime de Yaoundé sont un peu déjoués.
Les sécessionnistes ou nos compatriotes de la partie anglophone ont fait une corbeille de revendications sur lesquelles nous avons travaillé avant le dialogue, pendant le dialogue, et on va continuer à travailler après le dialogue. Et le résultat le plus manifeste de la reconnaissance nationale, c'est qu'on leur a accepté d'avoir un statut spécial.
Un autre bémol pour le rayonnement du Cameroun de Paul Biya, c'est l'annonce vendredi dernier de l'exclusion du pays du système commercial préférentiel avec les États-Unis, c'est-à-dire l'AGOA. Henri Fotso, à Yaoundé pour la Deutsche Welle.
À 17h12 en temps universel, direction le Bénin, où la révision de la Constitution votée à l'unanimité par les 83 députés de l'Assemblée nationale qui ne compte aucun membre de l'opposition fait des vagues. Mireille, vous avez recueilli des réactions également à ce sujet.
Oui, sur Twitter, plusieurs abonnés relaient la consternation du réseau ouest-africain pour l'édification de la paix, le WANEP Bénin, au sujet du processus de révision de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990. Celui-ci a été conduit et achevé en urgence, en quelques heures, la semaine dernière, par les 83 députés contestés, observe le réseau. Ils s'inquiètent et mettent en garde contre ce qui pourrait être un nouvel acte de renforcement de la crise sociopolitique dans le pays. La Nouvelle Tribune rapporte aussi les propos du juriste béninois Franck Hockey, qui dit ne pas comprendre comment les députés, du point de vue technique et juridique, ont estimé se fonder sur la base de l'article 70 pour enclencher une procédure d'urgence.
D'autres, en revanche, saluent cette révision de la Constitution, Mireille.
Oui, il faut dire que cette nouvelle Constitution, qui modifie une quarantaine d'articles, conserve la limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels, mais elle prévoit que le président ne pourra pas faire plus de 2 mandats dans sa vie et que les députés ne pourront plus excéder 3 mandats. Alors, Abdoulaye de Boïcon estime sur WhatsApp que le Bénin est un modèle de démocratie qui vient d'être renforcé par ce geste des représentants représentants du peuple. Et il ajoute qu'avant ce vote, les députés ont doté le pays d'une loi d'amnistie qui pardonne tous les crimes liés au scrutin législatif d'avril 2019 au Bénin. Il y a beaucoup de points très positifs dans la constitution révisée, estime Lolo de Sévier au Togo, qui aimerait bien que son pays suive cet exemple, ce qui permettrait un apaisement sociopolitique selon lui. Latif de Lomé souligne aussi que la révision de la constitution béninoise a le mérite de clarifier la situation des anciens chefs d'État qui, au lieu de prendre leur retraite et servir de sages à consulter en cas de besoin, troublent l'ordre public dans beaucoup de pays africains. Et puis Xavier de Côte d'Ivoire trouve aussi que la limitation du nombre de mandats des députés est une très bonne initiative, tout comme Prévost de Kinshasa, mais ce dernier émet une réserve toutefois. Elle concerne l'absence de consensus entre les partis de la majorité et de l'opposition, qui n'est malheureusement pas représentée au Parlement, ce qui inquiète quand même, écrit-il.
En bref, 4 marins, 2 Philippins, 1 Grec et 1 Géorgien d'un cargo pétrolier ont été enlevés ce lundi au large de la capitale togolaise Lomé lors d'une attaque menée par des pirates présumés. Cet acte de piraterie maritime intervient au lendemain de l'attaque d'un cargo norvégien samedi en rade du port de Cotonou au Bénin. 9 marins philippins ont été enlevés. Ces deux attaques ont eu lieu alors que se déroule depuis le 28 octobre l'exercice naval Grand Africain Nemo dans le cadre d'une coopération entre la marine française et 14 pays africains. Il est destiné à lutter contre la piraterie maritime et d'autres trafics dans le golfe de Guinée. En bref, toujours cette annonce des autorités sanitaires de la République démocratique du Congo. 300 attaques ayant causé 6 morts et 70 blessés ont été recensées en 11 mois contre des agents de la riposte anti-Ebola dans 3 provinces de l'est du pays. Et chaque attaque retarde les activités de la lutte parce qu'elles empêchent les équipes d'avoir accès à la population et de faire les interventions prévues, ont déploré les autorités sanitaires. Rien que ce week-end, un animateur d'une radio locale impliqué dans la lutte contre l'épidémie a été assassiné en Ituri. Nous restons toujours en RDC, plus précisément dans le sud-est à Lubumbashi où la pluie se fait rare. Toujours pas de pluie donc, alors que le mois de septembre marque en principe le début de la saison des pluies, les cultivateurs doivent plutôt faire face à une forte chaleur et ils craignent déjà la sécheresse. Les précisions de Patrick Kassondé.
Alors que les mois d'octobre et novembre sont réputés mois de la sémaille grâce aux pluies qui tombent régulièrement, cette année, les pluies sont très rares à Lubumbashi et ses environs. Une situation qui place en difficulté les cultivateurs, à l'instar de ces femmes de la périphérie.
Nos produits champêtres sèchent à cause de la forte chaleur.
Nous sommes en difficulté parce qu'il y a beaucoup de chaleur. Vous voyez l'Indembe là-bas, sont abîmés.
Une forte chaleur s'observe et inquiète les habitants de cette deuxième ville de la RDC.
Il fait excessivement chaud, vous sentez de l'étouffement. Je crois que nous atteignons au-delà de 35 degrés.
Nous savions que les premières pluies, c'était dans la première semaine du mois de septembre. À la rentrée scolaire, voilà que 2 mois plus tard, il ne pleut toujours pas. Je pense que nous payons les frais des grands de ce monde qui ont industrialisé la planète.
Cette absence des pluies et cette canicule sont liées à des variations climatiques causées par certains facteurs comme le déboisement, explique le climatologue Augustin Matete.
La variation du système climatique est plus ou moins chaotique. Ce qui se produit actuellement se justifie par plusieurs faits. Nous avons un déboisement qui est en extension autour de la ville de Lubumbashi. Le système de pavage, de servitude, a un impact. Ces servitudes devaient être végétalisées, soit avec une végétation basse, des herbes, des pelouses, où on plante des arbres le long des grandes artères. Et la régression de la couverture végétale. Au niveau de la ceinture de la ville de Lubumbashi, nous avons une extension plus vaste qui dépasse les 30 km. Ça a un impact, c'est-à-dire l'évapotranspiration diminue sensiblement.
À noter que certains pays de l'Afrique australe font déjà face à la sécheresse. Patrick Kassondé à Lubumbashi pour la Deutsche Welle.
En visite au Darfour, le premier ministre soudanais Abdallah Hamdok a assuré ce lundi devant des victimes du conflit que son gouvernement s'attelait à pacifier cette région, le Darfour, théâtre d'un conflit qui a éclaté en 2003 entre des rebelles s'estimant marginalisés et le pouvoir du président déchu Omar el-Béchir. Environ 300 000 personnes sont mortes et 2,5 millions ont été déplacées lors de ce conflit selon l'Organisation des Nations Unies.
DW. Le monde à votre portée.
En Irak, le peuple affirme qu'il a pris le pouvoir. Des manifestants ont instauré des barrages routiers dans la capitale Bagdad et la contestation lancée il y a près d'un mois a gagné le sud du pays avec de nouvelles victimes dans les rangs des manifestants. Sandrine Blanchard.
Désolé, vous ne pouvez pas passer, c'est ce que disent les manifestants en riant parfois aux policiers qui arrivent à hauteur de leur checkpoint. Ils ont installé des blocs de ciment pour bloquer le passage aux abords de la place Tahrir de Bagdad. Mohamed Abbas fait partie des Irakiens en colère contre les autorités.
Nous allons bloquer toutes les routes et tant qu'on n'aura pas de vrai pays, rien ne pourra fonctionner.
Les contestataires réclament un changement profond du système politique mis en place en 2003 au moment de l'invasion américaine. Un système destiné à venir à bout de la dictature de Saddam Hussein, mais gangréné par la corruption et le chômage, et où les services publics ne sont plus qu'un lointain souvenir. Ahmed Adel, chauffeur de tuk-tuk, ces petits véhicules à trois roues qui sillonnent Bagdad et sa banlieue.
J'ai 20 ans et je n'ai pas de travail. C'est pour ça que je suis devenu chauffeur de tuk-tuk. À l'étranger, les jeunes peuvent aller à l'école et étudier, mais ici, quand tu as fini tes études, tu restes à la maison, au chômage.
Des centaines de manifestants ont été tués dans la répression du mouvement ces dernières semaines. Les chauffeurs de tuk-tuk vont porter secours aux blessés lors des heurts avec la police. Souvent, ils sont en première ligne quand les forces de l'ordre tirent sur les manifestants.
J'ai vu un homme à moto touché par la police. Un chauffeur de tuk-tuk est accouru pour lui venir en aide. La police lui a tiré dessus avec des grenades lacrymogènes dans la tête. Sa cervelle sortait de son crâne. Il est mort. On a essayé de le sauver, en vain.
À Karbala, dans le sud du pays, des manifestants ont tenté de prendre d'assaut le consulat iranien. Là encore, la police a tiré à balles réelles et tué plusieurs personnes. Les autorités ont cessé de publier le décompte exact des morts dans les heurts, mais ils sont déjà plus de 250 à travers le pays.
Et puis j'ajoute que le Premier ministre Adel Abdelmahdi, en place depuis près d'un an, refuse de démissionner, mais il a promis de remanier son cabinet. La violence de la riposte des autorités renforce la détermination des manifestants. Dans plusieurs villes du pays, des banderoles ont été accrochées sur les façades de bâtiments publics et d'administration fermées sur ordre du peuple. Je le disais dans le sommaire, le 9 novembre prochain, c'est-à-dire samedi, l'Allemagne et le monde vont célébrer les 30 ans de la chute du mur de Berlin. Cette construction qui entourait Berlin-Ouest entre 1961 et 1989 est devenue le symbole de la guerre froide et de la séparation de l'Allemagne en deux États antagonistes. Toute cette semaine, donc, nous allons vous proposer des reportages et analyses sur le mur, son tracé et ses conséquences sensibles jusqu'à aujourd'hui. Mais pour commencer, un retour historique pour mieux comprendre le contexte qui a amené le régime est-allemand à émurer les Berlinois de l'Ouest. Jean-Michel Boss.
Le ton n'est pas très enjoué. Pourtant, Petra Konen annonce le 9 novembre 1989 dans le journal du soir de la Deutsche Welle que le mur de Berlin est en train de tomber après 50 ans de partition de l'Allemagne. Petit retour en arrière pour comprendre pourquoi ce mur avait été construit. Eh bien, il faut retenir trois dates. 1945 d'abord, celle de la défaite de l'Allemagne nazie. Les alliés occidentaux, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, se partagent la moitié ouest de l'Allemagne. La partie est est placée sous l'influence soviétique. Deuxième année importante, 1949, c'est cette année que sont créés d'abord l'État ouest allemand, la RFA, et puis la RDA à l'est, quelques mois plus tard. Le régime est-allemand est répressif, plus de 2 millions de citoyens tentent de le fuir en passant à l'ouest. C'est pour endiguer ces départs qu'en 1961, la troisième date à retenir donc, et c'est la nuit du 12 au 13 août 1961, eh bien les autorités est-allemandes construisent un mur à Berlin. Jérôme Vaillant, professeur émérite de civilisation allemande à l'université de Lille et directeur de la revue L'Allemagne d'aujourd'hui.
Après la construction du mur, la RDA va se relever économiquement parce qu'elle aura mis un terme à la fuite de sa jeunesse et de ses capacités pour faire fonctionner le pays.
Au début, ce sont des barbelés, une séparation de 155 km de long sous haute protection qui encercle la moitié ouest de la ville. Quelques semaines plus tard, elle est renforcée par un mur en béton de 3,5 m de haut piégé par des mines et surplombé de miradors. La RDA affirme qu'il s'agit d'un mur antifasciste érigé pour des raisons de sécurité. Tous les passages entre les deux parties de la ville sont bloqués. L'armée soviétique est déployée aux frontières entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Jusqu'à ce soir, donc de novembre 1989, quand des centaines de milliers de Berlinois de l'Est prennent d'assaut le mur et en viennent à bout en criant « Nous sommes un peuple, nous sommes le peuple ».
Allemagne encore avec la revue de presse des journaux allemands, désormais revue de presse que vous consacrez ce lundi à la politique israélienne et aux attaques du week-end au Mali. Hugo Flotatalon.
Attaques, on le disait, qui ont fait plus de 50 morts et qui, de par leur ampleur, remontent en page 2 de la Tageszeitung. Le journal raconte le débat sur place. On tente de désarmer certains groupes en intégrant leurs combattants dans l'armée, mais certains estiment que les groupes ont ainsi infiltré les rangs des soldats réguliers, raconte le quotidien. Le correspondant de la Süddeutsche s'inquiète lui aussi des dernières semaines où le nombre des attaques et le nombre de morts a clairement augmenté, écrit-il. Il rappelle au passage qu'un millier de soldats allemands sont présents au Mali. Il faut une vraie mobilisation internationale pour le Mali et le Burkina Faso avant que ce feu de brousse ne se propage, dit l'activiste des droits de l'homme sénégalais Alioune Tina, cité par la TATS. Sur le site du journal, on retrouve d'ailleurs ce lundi une interview avec l'anthropologue malien Brema Elidiko à ce sujet. Celui-ci déplore les multiples sessions de formation auxquelles l'armée allemande a participé, qui se multiplient pour les soldats maliens sans véritable convergence, selon Brema Elidiko. Ce dernier prône notamment un changement de stratégie. Les terroristes utilisent des motos. Pourquoi les soldats ne pourraient-ils pas former des unités avec 5 à 10 motos? C'est une guerre asymétrique, conclut-il. Et puis dans la presse aussi, des nouvelles d'Israël et de sa politique ce lundi. Un troisième scrutin en un peu d'un an devient de plus en plus probable, estime la Tageszeitung. La raison, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son opposant Benny Gantz, qui n'ont pas réussi jusque-là à former un gouvernement suite aux dernières élections. On ne sait pas si Benny Gantz sera soutenu par des partis arabes israéliens, certains de la gauche libérale, et ses positions sur un certain nombre de points restent floues. D'ailleurs, jusqu'à présent, ni la population israélienne, ni la communauté internationale ne savent comment Gantz veut façonner les relations avec les Palestiniens, ajoute la Süddeutsche Zeitung. Alors malgré tout cela, il y a tout de même de l'espoir pour la politique israélienne, estime la TATS. Le quotidien de Berlin cite le changement de style politique par rapport à Benjamin Netanyahou de Benny Gantz. La première invitation des partis arabes aux négociations gouvernementales depuis 20 ans est la démonstration qu'un autre dialogue que celui de la haine contre les dissidents est possible. Il n'y a toujours pas de gouvernement, mais peut-être qu'on est au début de bouleversements dans la politique israélienne. C'est à espérer, conclut la TATS.
Et avant de passer au sport, cette information qui vient de tomber en Guinée, un des manifestants blessés par balle vient de succomber à ses blessures. Il s'appelle Ibrahima Diallo et il a 17 ans.
DW. Le sport. Sophie Serbini.
Comme tous les lundis, Sophie Serbini fait le point sur les derniers résultats de foot européen.
Surprise en Ligue 1 avec vendredi soir la défaite du Paris Saint-Germain sur la pelouse de la Lanterne Rouge Dijon 2-1. Une défaite sans conséquence au classement pour les hommes de Thomas Tuchel puisque leurs dauphins du FC Nantes se sont aussi inclinés 2-0 face à Bordeaux. Le PSG conserve donc 7 points d'avance sur son poursuivant. À noter sinon la victoire 3-2 de Lyon face à Toulouse et surtout celle de l'Olympique de Marseille 2-1 contre Lille. Une victoire qui permet aux Marseillais de remonter à la 4e place au classement. En première ligue, Liverpool vainqueur dans les arrêts de jeu d'Aston Villa 2-1 grâce à une réalisation de Sadio Mané, reste invaincu et surtout garde la tête du championnat. Les Reds comptent toujours 6 points d'avance sur Manchester City. Leicester et Chelsea restent quant à eux accrochés à leur 3e et 4e place. En revanche, les choses se compliquent pour Arsenal, auteur d'un match nul 1 partout face aux Wolves, et pour United, défait 1-0 par Bournemouth. Unai Emery et Ole Gunnar Solskjaer sont plus que jamais sur la sellette. En Serie A, la Juventus conserve la tête grâce à sa victoire 1-0 face au Torino. La vieille dame devance toujours d'un point l'Inter Milan, vainqueur 2-1 de Bologne, avec un doublé de Romelu Lukaku. De son côté, Naples plonge au classement. Battu 2-1 par la Roma, les hommes de Carlo Ancelotti ne sont plus que 7e à déjà 11 points de la Juventus. Enfin, en Liga, la Real Sociedad a rejoint le FC Barcelone et le Real Madrid en tête du championnat. Les Basques, vainqueurs 2-1 de Grenade, ont profité de la défaite des Catalans et du match nul des Madrilènes pour revenir à leur hauteur, même si ce classement est à prendre avec des pincettes puisque le Barça et le Real comptent toujours un match en moins. Le choc entre le FC Séville et l'Atlético Madrid s'est lui achevé sur le score de 1 but partout. Les deux équipes sont respectivement 5e et 4e au classement.
Téléchargez notre application dw.com/appli.